La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
L'être humain est-il calculable ? Voilà une question très provocante et riche de sous-entendus dont certains font froid dans le dos. C'est pourtant une question qui se pose actuellement à une époque où les intelligences artificielles ont envahi notre quotidien. Jusqu'où tout cela ira-t-il ? Les robots peuvent-ils remplacer l'humain ? Est-ce que la pensée peut ou non se réduire à un traitement de l'information ? Mon invité d'aujourd'hui, Éric Sureau, propose une analyse de ces questions, fondée sur la science elle-même et sur ses limites, et plus précisément les limites du calcul numérique. Bonjour Éric.
Bonjour Sylvie.
Éric Sureau est physicien, professeur émérite à l'Université de Toulouse, professeur honoraire à l'Université de Belfast en Irlande, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, avec encore bien d'autres titres et responsabilités. Il a été directeur de l'IRSAMC à Toulouse, l'Institut de recherche sur les systèmes atomiques et moléculaires complexes, devenu depuis quelque temps la Fédération Fermi par regroupement de plusieurs laboratoires. Éric manipule donc des sujets très complexes dans son travail, mais aujourd'hui, la discussion porte sur une situation qui nous concerne tous, la relation entre l'être humain et la machine. Et est-ce que la machine peut remplacer l'humain ? Alors Éric, je crois que la première chose est de bien comprendre que tout ce qui est calcul numérique est réducteur. Cela ne représente pas toute la complexité de la réalité naturelle, mais seulement une partie. On peut travailler sur cette partie, l'étudier, comprendre son évolution, c'est très utile pour comprendre le monde, mais ce n'est pas tout. Est-ce que tu es d'accord avec cela ?
Tout à fait, Sylvie. Je pense que le propre des calculs, mais pas seulement d'ailleurs de notre perception du monde, c'est sa finitude, le fait que nous avons accès qu'à une représentation finie de quelque chose qui est, si ce n'est infini, en tout cas qui dépasse largement ce que nous sommes capables de représenter.
C'est ce qu'on appelle les modèles en quelque sorte.
Les modèles en font partie. On va modéliser une partie d'un système complexe qu'on aura déjà isolé du reste de son environnement. Le calcul va rajouter en fait une couche de simplification ou d'approximation. Et je pense que c'est important d'être conscient de cette dimension-là qu'on a tendance à occulter. On pense que le calcul est juste.
Exact et complet, quoi.
Absolument.
Oui. Par exemple, donc dans les ordinateurs, tu peux nous dire un petit peu, les ordinateurs actuels qui fonctionnent avec ce qu'on appelle système binaire, il y a des erreurs qui peuvent venir à cause d'arrondis de calcul. Tu peux nous expliquer un petit peu ces choses-là ?
Oui. Alors, en deux mots, le binaire, c'est un interrupteur. Donc, c'est soit 0, soit 1 en mathématiques ou en informatique. Mais l'idée qui est derrière, c'est qu'un courant va passer ou pas. Donc, c'est vraiment l'interrupteur qu'on connaît bien. Et donc, on va représenter les nombres, pas seulement les nombres. D'ailleurs, il en va de même pour les mots hein, qui sont représentés par des nombres. On va représenter ces objets par une séquence de 0 et de 1. Donc, c'est comme une séquence d'interrupteurs. Évidemment, la séquence est finie. Donc, on va être obligé de limiter la représentation des nombres. L'exemple simple, c'est par exemple un tiers. Un tiers, vous savez tous qu'un tiers, si j'essaye de l'écrire en décimale, ben, j'y arrive pas. C'est-à-dire que je vais obtenir 0,333333333.
Jusqu'à l'infini.
Jusqu'à l'infini. Mais il y a d'autres nombres qui sont impossibles à écrire en binaire. Par exemple, 0,1, un dixième, n'est pas représentable. Donc, il est représentable comme un tiers en décimale, c'est-à-dire qu'il faudrait un nombre infini de bits pour le représenter. Autrement,
évidemment, on ne peut pas aller jusqu'à l'infini, donc on coupe quelque part. Et c'est ça qui peut créer d'énormes problèmes.
Qui peut créer. Alors, attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des tas de situations dans lesquelles on contrôle parfaitement ces erreurs d'arrondi et où ça fonctionne. Mais il y a aussi des situations où ça ne fonctionne pas parce que le calcul qu'on essaye de faire est intrinsèquement, par exemple, chaotique. Dans un régime où une infime erreur sur une condition initiale fait que le résultat final sera très différent de ce qu'on attendait, la plus minime erreur de précision, donc le fait que ce soit fini, est susceptible de créer un problème.
Tu disais aussi qu'il peut y avoir une petite erreur, une erreur vraiment minime sur une opération, mais que quelquefois on fait des millions d'opérations de ce genre et l'erreur minime, elle finit par avoir un effet important.
Absolument. On connaît très bien ces problèmes. Souvent, ça se produit quand on manipule des petits et des grands nombres. Alors j'avais pris l'exemple, on en avait parlé ensemble, d'une erreur d'un euro sur la dette de la France, donc 3 000 milliards.
3 000 milliards.
Et quelques. Bon, peut-être que tout à l'heure, ça en fera un peu plus, mais bon, disons, maintenant, c'est 3 000 et quelques milliards. Ça paraît ridicule. En fonction de la façon dont on va manipuler cet euro par rapport à la dette de la France, on ne va pas obtenir exactement le même résultat dans un calcul, disons, standard. Ça peut ne pas être grave. Sauf qu'il existe des milliards et des milliards d'opérations qui sont faites, par exemple, pour les transactions bancaires et dans tout un tas de situations. Prenez, par exemple, un système d'exploitation comme Windows ou comme Mac OS, enfin, les systèmes qu'on a sur nos machines. Il y a des millions de lignes de code avec donc des millions d'opérations. Et là encore, rien n'est écrit, mais on peut imaginer accumuler des erreurs. Pas forcément, mais le diable se cache dans les détails.
Alors si je veux résumer, je pense qu'il y a d'abord un problème parce que les calculs, ce n'est pas quelque chose de continu. Et puis la deuxième chose, c'est les erreurs justement du fait qu'on a des nombres qui ne sont pas représentables exactement dans ce système binaire.
Alors oui et non. Alors oui dans le principe, c'est-à-dire que évidemment, c'est toujours pareil, puisqu'on est dans une représentation finie, on n'arrivera pas à quelque chose, à atteindre une sorte d'infini. En mathématiques, entre deux nombres, il y en a toujours un au milieu, entre les deux, au moins un, en fait, une infinité, mais disons au moins un. Dans une représentation finie, on a un nombre fini de nombres entre 0 et 1. Alors on peut gagner, c'est-à-dire au lieu d'utiliser 32 bits, on va en utiliser 64, c'est ce qui se fait aujourd'hui, on va gagner dans le nombre de nombres présents entre 0 et 1, mais il en restera toujours une infinité auquel on n'aura pas accès. Donc là, c'est une course à l'infini. Alors là encore, on peut s'en contenter dans certains cas. Je pense que le point important, c'est surtout de ne pas croire, et je dis bien croire, pas penser, de ne pas croire que parce que c'est calculé par un ordinateur, c'est juste. Les scientifiques en sont conscients, pas forcément tous. Ceux qui développent des programmes, en principe, oui. Ceux qui les utilisent sans les avoir développés, pas forcément. Parce que du coup, ça devient des boîtes noires et donc on ne sait pas forcément comment sont écrites les choses. Le credo pendant des décennies, et c'est toujours le cas, le credo, ça a été d'aller vite, de calculer vite. Donc on optimise. Donc on va essayer de trouver une astuce pour qu'un calcul aille plus vite qu'un autre. Ce qu'on observe aujourd'hui, puisqu'il y a tout un travail qui est fait par la communauté informatique sur les problèmes de reproductibilité, c'est-à-dire j'ai un programme qui fait un calcul, je change de machine et je regarde si j'obtiens le même résultat. C'est pas du tout évident parce qu'il y a tout un tas de choses cachées dans la structure même, dans la construction même de la machine qui font qu'on a pu optimiser une opération à un endroit et que l'utilisateur n'en soit pas conscient. Si on veut éviter ça, c'est possible. C'est-à-dire, il y a des possibilités, il y a des stratégies pour, disons, contrôler ce genre de choses, mais à ce moment-là, on perd en temps. Ça veut dire qu'un calcul donné va prendre beaucoup plus longtemps et donc on va en faire moins. Et ce n'est pas la logique globale. Donc c'est compliqué, ça.
Est-ce que tu peux dire un petit mot, justement, sur l'importance de la reproductibilité en recherche scientifique et pour,
Absolument. Pour Je suis convaincu que c'est une des pierres angulaires de la recherche scientifique. D'ailleurs, la recherche scientifique fonctionne, par exemple, avec la reconnaissance des pairs, et les pairs reconnaissent ce que...
Les pairs, P-A-I-R.
P-A-I-R,
attention, ouais, oui, parce que les gens disent les pairs, pourquoi pas les mères. Non.
Tout à fait.
Les pairs, c'est-à-dire les collègues. Non, mais l'ensemble de la communauté des collègues. Et donc, c'est pas un collègue, mais l'ensemble
absolument.
De la communauté des collègues.
Et donc, ce qui veut dire qu'on doit être capable de reproduire les expériences, les calculs, pour retrouver les résultats. Alors, retrouver les résultats, ça peut se faire éventuellement avec une marge d'erreur. C'est une barre d'erreur. On ne va pas forcément trouver exactement le même résultat au chiffre près. Ceci étant, si les écarts sont trop importants, le doute s'installe et il faut retravailler pour arriver à réduire justement la barre d'erreur. Donc, quand on fait un calcul, on est censé, le calcul est censé être reproductible. J'ai des souvenirs de mes débuts dans la recherche où on expliquait comment on faisait les calculs, ce qui était bien. Donc, dans un article, on avait des détails un peu techniques. Alors, c'était un peu technique, mais ça permettait aux collègues de vérifier, entre guillemets. Et puis, à un moment où l'informatique est arrivée de façon, presque brutale, où les moyens de calcul en particulier se sont démocratisés, ils sont arrivés sur un bureau, on avait une capacité de calcul qu'avant, il fallait un bâtiment entier pour obtenir. Et là, cette tendance à indiquer des détails techniques dans les articles scientifiques, par exemple, a eu tendance à s'estomper. Et puis, on y revient. Et notamment, les journaux commencent à demander des données. Est-ce que vous pouvez, valider les conclusions que vous tirez en donnant accès à des données spécifiques qui ont été prises, qu'elles soient numériques ou expérimentales. Et ça, je trouve que c'est une tendance extrêmement positive.
Et que d'autres peuvent éventuellement essayer de refaire.
Absolument. Absolument.
Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire très attention. Il peut y avoir des erreurs importantes, simplement numériques, dans les ordinateurs. Puis il faut retenir aussi que, quand même, les chercheurs font très attention à ça et que quand on donne des résultats, c'est quand même assez fiable. Il ne faut pas donner l'impression qu'il y a trop de problèmes. Et puis, il peut y avoir, comme tu viens d'en parler d'ailleurs, il peut y avoir des effets extérieurs. Et je pense qu'il nous faut une deuxième émission pour parler de ça. Par exemple, des effets qui peuvent venir du ciel et pour perturber nos calculs. Donc, merci beaucoup, Eric. On va se quitter maintenant et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.